suite sur France Culture, du lundi au jeudi, un rendez-vous tout neuf, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Franchir les frontières, 4 histoires de passage. Au départ de cette série, il y a une utopie, l'envie d'aller et venir, de décider simplement où l'on va, prendre un train, traverser une forêt et simplement se retrouver de l'autre côté, et laisser derrière soi la guerre, la peur, mais aussi sa maison et sa famille. Mais pour les privilégiés, les frontières sont de simples formalités, des lignes imaginaires qui traversent des cols, des mers ou des chemins et qui racontent notre histoire, des lignes qui nous séparent autant qu'elles nous rapprochent. Pour commencer, les personnages. Un policier belge, francophone, des voisins, un maire néerlandophone et belge, un commissaire de police amusé, un homme politique wallingant, un humoriste belge et bilingue, un maire francophone belge, un président de parlement flamand et un cadavre sans tête. Ensuite, le décor. On est dans la campagne, sur les berges de la Meuse, dans des maisons dont une porte donne en Belgique et l'autre aux Pays-Bas, sur des trottoirs où l'on parle plusieurs langues, dans des villages qui ont été tantôt belges, tantôt néerlandais. Alors aujourd'hui, quatrième et dernier épisode, des frontières dans la tête, comment j'ai exploré le labyrinthe des frontières entre Belgique et Pays-Bas, un documentaire d'Antoine Saxe réalisé par Assia Khalid. On est à côté de Liège, pas loin de Maastricht, sur des frontières si emmêlées qu'à force on ne sait plus très bien où on est.
With the new year comes new territory for Belgium and the Netherlands. They've agreed on a friendly exchange of land which will slightly alter the border.
In un'epoca in cui ancora si muore per un confine, è bello vedere due paesi scambiarsi territori nel nome del buon senso. Protagonista di questa storia, un lembo di terra grande come 15 campi da calcio sulla riva orientale del fiume Meuse.
Año nuevo, fronteras nuevas. Bélgica y Holanda se intercambian enclaves. Hay cesiones que son un alivio. Y estos metros cuadrados belgas en territorio holandés, con el río Mosa como frontera, son un ejemplo.
Belgique, des frontières dans la tête. Un documentaire signé Antoine Saxe et Assia Khalid. En décembre 2015, la presse du monde entier répercute un curieux fait divers. La découverte d'un cadavre sans tête, sur les berges de la Meuse, pourrait provoquer une modification de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Un sujet important puisque la Belgique est devenue indépendante des Pays-Bas en 1830. La Belgique, c'est donc ce drôle de pays informe, décrit par Jules César comme s'étendant plus ou moins de la Picardie au nord du Friesland, et qui a été le terrain d'à peu près tout ce que l'Europe a pu inventer comme guerre depuis 2000 ans. Les frontières actuelles de la Belgique sont issues du traité des 24 articles, signé à Londres le 19 avril 1839. Il s'agissait d'un accord entre leurs majestés impériales et royales d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, suite à des revendications indépendantistes dans ce qui était alors le sud des Pays-Bas. Pour rappel, après avoir vaincu Napoléon, ces quatre puissances victorieuses avaient créé les Pays-Bas pour en faire un état tampon. La tambouille ne dérangeait pas trop les protestants du nord de la zone, mais n'avait pas bien pris au sud et avait abouti à la révolution de 1830, où les catholiques et les libéraux s'étaient unis au nom d'une certaine identité belge. Le choix avait alors été fait de contenter le peuple. Leur Majesté subalterne Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, à qui l'on avait refourgué son trône en 1813, et le roi des Belges Léopold, à qui l'on avait refilé la nouvelle couronne disponible après qu'il eut refusé celle de la Grèce, étaient les obéissants rejetons de ces dynasties monarchiques qui se partageaient alors l'Europe et qui s'apprêtaient à s'entre-déchirer. Presque deux siècles plus tard, nous voici aux alentours de Visé, en Belgique, tout près de Eisden, le point le plus au sud des Pays-Bas, en compagnie du commissaire Duchesne, chargé de l'enquête sur le cadavre sans tête retrouvé sur les bords de la Meuse.
Donc ici, vous êtes venu par quel côté? Vous venez de Maastricht ou bien de...
On arrive de Cannes.
Ah, de Cannes. Donc vous êtes venu de l'autre côté, par la Belgique alors.
Oui.
Vous avez vu qu'on a quand même quelques kilomètres à faire pour venir ici, hein, en territoire hollandais. Donc c'est surprenant de découvrir un territoire belge alors qu'on fait 5-6 kilomètres. Ce qui nous embête, c'est que pour venir surveiller le territoire, on devrait venir ici. en patrouille avec nos combis de police et tout ça. Or, c'est pas possible, on n'a aucun moyen légal, aucune autorisation légale de venir ici en patrouille.
Là, vous êtes en service et vous auriez du coup éventuellement dû demander une autorisation pour venir ?
Éventuellement, oui, mais enfin bon, on a des bonnes relations quand même avec nos collègues, hein. Surtout je suis en civil. Et donc, quand on a découvert un jour un cadavre, des passants ont découvert un cadavre ici, ils ont alerté la police hollandaise, comme de juste, qui nous a renvoyé l'affaire, puisque c'était en territoire belge. Et pour venir faire tous les devoirs, le médecin légiste, le laboratoire de la police judiciaire, le magistrat, on a dû prendre le bateau en face et faire des allers-retours incessants. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons aucune raison valable de traverser le territoire hollandais sans ça. Donc c'est vrai que c'était pas très pratique. Et ça n'est pas très pratique.
C'est la seule fois où vous avez eu à vous occuper d'une affaire ici ?
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui.
La seule fois où vous êtes venu ici, de votre carrière ?
Oui, oui. Ah, oui pour le travail, en tout cas, oui. Mm-hmm. J'ai déjà venu me promener, mais pour le travail, c'est la seule fois, oui.
Alors, on sait qui était cette personne ?
Oui, c'était un SDF, une pauvre personne hollandaise qui était venue, qui a fait un malaise ici et il a perdu sa tête parce que la décomposition et les animaux, c'est tout. Hein. C'était pas un meurtre, rien du tout. C'est simplement une personne identifiée. L'histoire est malheureuse. Du point de vue policier, c'était une enquête banale, quoi, et très vite résolue. C'est le jour même, les allers-retours, les moyens mis en œuvre sont un petit peu hors normes, parce qu'on ne prend pas tous les jours un bateau, nous, ici, pour venir travailler, pour se rendre sur les lieux d'une scène de crime. C'est tout bête, en fait. Hein. C'est tout bête, c'est parce que il y a certaines personnes qui ont monté cette affaire en épingle, mais c'est pas du tout une affaire de grand banditisme ou digne de faire un roman feuilleton. Hein. On va aller ici à droite. Donc ceci, c'est toujours la Hollande, ici. Hein. Donc c'est un beau parc naturel, vous voyez des vaches. En liberté, il y a des chevaux, il y a des chiens. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais personne qui vient à part des gens qui se promènent, encore moins des contrôles policiers ou quoi que ce soit, et de chez nous certainement pas, quoi.
Parce que vous, vos hommes, ne venez quasiment jamais ici.
Le quasiment est de trop.
Le quasiment est de trop, voilà. Vous ne venez jamais ici, et donc c'est le paradis pour ceux qui aiment les endroits sans policiers.
Ça pourrait. Ouh là là. Ouh là là.
Ça, les policiers n'aiment pas trop marcher dans la boue.
N'interprétez pas, s'il vous plaît. N'interprétez pas. Vous voyez, ça, c'est une ancienne borne frontière. Enfin, non, c'est une borne frontière. Le piquet gris, là, au milieu. Ici, nous sommes aux Pays-Bas. Et dans 50 mètres, on est en Belgique.
On est aux Pays-Bas, dans la commune de Eisden.
C'est ça.
Tout à côté du canal Albert. Sur une sorte de presqu'île, en fait, qui est inaccessible, totalement inaccessible depuis la Belgique, à moins de traverser la Meuse ou de venir en passant par les Pays-Bas.
Exactement, c'est une enclave belge aux Pays-Bas, tout à fait. De l'autre côté, juste en face, la partie que vous voyez en face, c'est territoire hollandais. C'est exactement l'inverse d'ici. Et eux non plus ne savent pas y accéder sans passer par la Belgique. Voilà, là derrière, c'est la nouvelle écluse, une des plus grandes écluses européennes d'ailleurs. Elle vient d'être terminée il y a quelques mois.
Zone stratégique, le canal Albert ?
Oui. Ah oui, oui. C'est ce qui relie le port d'Anvers à presque le reste de l'Europe d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc ici, les pêcheurs qui viennent causer des problèmes ou quoi, qui viennent ici, qui viennent là. Quand les brigades néerlandaises, soit de police de l'environnement ou les policiers eux-mêmes, veulent venir les contrôler, ils font 50 mètres et ils sont donc libres. Je crois que c'est plutôt ça qui a forcé le changement de territoire. Hein. Ça n'a vraiment aucun sens que ça reste belge. Hein. Vous pouvez venir voir, regardez, c'est ici en bas, c'est... Il y a une petite jetée qui arrive vers l'eau. Voilà, et petites sortes de plages là au bas du fossé. Et l'homme était là, son corps plus exactement était là en bas, couché, et sa tête un peu plus loin, voilà. Il s'était endormi, Il a eu un malaise et il est resté endormi. Il était venu à pied de Maastricht, hein, donc il n'était déjà pas en pleine forme. Hein. Pour venir à pied de Maastricht, c'est déjà une drôle d'idée.
Et il y a vraiment très peu de passages, parce qu'il a été repéré assez tard, en fait.
Hein. Oui, il n'y a pas de navigation ici. Hein. Une bête anecdote, quoi, sans conséquence, sans rien. C'est pour ça que la première fois que quelqu'un m'a dit que c'était la raison pour laquelle on voulait changer de territoire, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. C'est un ensemble. Les Américains qui étaient venus trouvaient extraordinaire qu'on puisse échanger des territoires sans se battre. Et ça, c'est vrai qu'en étant positif, c'est vrai que c'est pas plus mal, une fois de temps en temps, d'être un peu logique. Dans le monde actuel, finalement, ça fait du bien.
Ah oui, c'est les cartes de l'échange, justement. Oui. On est vraiment dans le sujet, là.
Oui, c'est ça.
Alors, dites-nous.
On est vraiment, on arrive à l'extrême nord de la commune de Visée. La ligne que vous voyez ici sur la photo, en fait, c'est l'actuelle frontière. Ceci, c'est la Meuse. Ici, le canal Albert. Là, il oblique, il traverse la colline pour aller vers Anvers.
On peut peut-être faire les présentations. Nous sommes en présence de Marcel Neven, bourgmestre de Visée depuis une trentaine d'années.
Depuis début 1789.
Et en présence également de monsieur
Claude Putz, je suis le chef du service environnement de la ville de Visée.
Alors où est-ce qu'on en est de cet échange de frontières?
En fait, puisque le traité des 24 articles de 1839 précisait bien que c'était le Tarlouec de la Meuse qui était la frontière, si le Tarlouec a changé parce que la Meuse qui était un peu sinueuse a été rectifiée, ben, il est évident que il fallait aussi rectifier les frontières, puisque sinon on a un petit morceau de Belgique qui est sur la rive droite et un petit morceau de Pays-Bas qui est sur la rive gauche, qui est tout à fait illogique. Hein. Et alors c'est ce qu'on n'a pas fait précédemment, qu'on aurait dû faire, et on le fait maintenant.
Et c'est acté, on peut considérer que ça va intervenir dans combien de temps?
Normalement, on espère qu'au début de l'année 2017, ça va se faire à 31 décembre, on espère que ce serait fait à ce moment-là.
Si on fait la balance, disons, des échanges, on peut dire que le territoire néerlandais va s'agrandir d'à peu près 14 hectares du fait de cet échange.
Et vous êtes plutôt perdant, alors, dans cet échange?
On s'en fout éperdument, on est européen. Et ça, voilà, ça nous est vraiment indifférent. Je trouve que c'est une mesquinerie à ceux qui tiennent des propos de ce genre-là.
Un hectare, c'est un hectare, hein?
On s'en fout.
Non, moi, je suis biologiste, je peux vous dire que la Belgique va récupérer 3 hectares extrêmement riches en termes de biodiversité.
Je préfère ça.
C'est pas tous les jours qu'un échange de territoire se passe légalement.
Ben oui, c'est ça qui a suscité un intérêt presque mondial, parce que toutes les autres modifications de territoire dont j'ai jamais entendu parler, bah, c'était à l'issue de guerres, de conquêtes, de tout ce qu'on veut, mais vous n'avez jamais vu qu'on s'échangeait des territoires de manière pacifique. Welcome to the Hussevina border, come see what we got. Contrabanda, grand order sign.
Si les modifications de frontières avec les Pays-Bas se font désormais de manière pacifique, il n'en va pas de même dès qu'on évoque le partage du territoire entre Flamands et Wallons. À la création de la Belgique en 1830, la très grande majorité de la population était néerlandophone,
mais le français était la langue officielle pratiquée par les classes dirigeantes. La domination du français a duré jusqu'au XXe siècle, culturelle et surtout économique. Progressivement, les néerlandophones ont fait valoir leur droit à parler leur langue. Les tensions se sont multipliées au point qu'en 1963, une frontière linguistique a été instaurée entre la Flandre et la Wallonie.
Pourquoi vous êtes contre la manifestation des Flamands ?
Pourquoi je suis contre les Flamands ? Parce qu'ils sont contre la Belgique, enfin. Est-ce que c'est difficile à dire ? Ce sont tous des SS. C'est la bande des trains, de 14 et de 18. Et encore celle de 40. Tout est trade. Bande des SS.
Voilà Nederlands pourquoi aan de kust. Nederlands aan de Belgische kust. Frans aan de Belgische kust. Engels en Duits aan de Franse kust.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils n'en savent pas. Qu'ils apprennent d'abord à parler leur flamand.
J'avais dire qu'ici, à la côte flamande, la côte belge, c'est tout à fait d'accord, hein, on ne voit presque pas la langue néerlandaise. On ne voit presque pas la langue flamande. La langue flamande qui est la flamande.
On parle tout ce qu'on veut.
Mais laisse-moi parler. La démocratie, démocratie. J'aime. Tout le monde a le droit de parler. Qu'ici, à la côte flamande, on ne voit pas la langue flamande.
À minuit, les Belges auront une nouvelle frontière linguistique. 100 000 habitants seront à cette heure-là transférés administrativement de part et d'autre d'une frontière intérieure qui séparera la Flandre et la Wallonie.
Depuis cette date de 1963, le contexte économique a évolué puisque l'industrie wallonne s'est essoufflée alors que les Flamands ont mis en place une économie plus tertiaire. Mais le débat politique belge se cristallise toujours sur cette frontière interne que l'on évoque à Bruxelles avec Bert Kreusmans, un humoriste flamand spécialisé dans un exercice difficile, faire des spectacles des deux côtés de la ligne linguistique.
Pour le moment, on se trouve au bâtiment des chaînes publiques, je dois dire chaînes en pluriel, parce qu'il y en a deux. On a la RTBF, Radio-Télévision Belge Francophone, et on a la VRT, Vlaamse Radio et Télévisie, qui diffuse en néerlandais. Et ces deux chaînes-là se trouvent ensemble ici, dans ce bâtiment. Mais chaque chaîne a son propre côté, propre endroit. Quand vous y arrivez, à droite, vous avez tout ce qui est francophone. Et à gauche, vous avez tous ceux qui parlent en néerlandais et qui font des programmes de télé et de radio en néerlandais. Et pour le moment, on se trouve vraiment au milieu, entre les deux. Quand je me mets ici, maintenant, je suis en Belgique francophone, côté chaîne francophone. Et quand je vais par là, voilà, moet ik in het Nederlands praten, maintenant je dois parler en néerlandais. Allez, je ne dois pas, c'est place. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus pratique de parler en néerlandais ici. Et maintenant, je me trouve vraiment au milieu. C'est ici un peu une sorte de frontière linguistique dans le bâtiment. Et moi, je travaille des deux côtés. Alors, ça veut dire que je peux saluer des gens francophones, des gens néerlandophones. Et ça, c'est assez rare. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce bâtiment et qui vont saluer uniquement des gens de leur propre langue. Moi, j'étais le premier animateur néerlandophone, côté francophone, en 35 ans. Et aussi, quand je faisais mes spectacles dans les salles, quand on avait notre crise communautaire, hein, pas de gouvernement, 541 jours sans gouvernement belge, les gens m'adressaient après les spectacles, voulaient vraiment parler avec moi, mais c'est quoi le problème que vous avez avec nous, les francophones ? C'était une sorte de séance thérapeutique même, j'ose même dire. Allô. Dans mon spectacle, je jouais le vieux roi, le roi Albert, parce qu'il était encore le roi à cette époque-là. Et quand je jouais le roi, je disais, on peut quand même pas scinder ce beau pays. Et quand je le disais, chaque soir, les gens étaient tellement silencieux, c'était une sorte de silence très très lourd dans la salle. On n'était plus dans l'humour. Vous voyez ? Et parce que j'étais le seul néerlandophone qui faisait des spectacles en français, c'était Oui, c'était extraordinaire.
Je suis un Flamand, mais je viens en paix. Je ne suis pas venu en Wallonie pour chercher de la bagarre. Non, moi je suis envoyé par notre ministre du Tourisme. Et il m'a demandé, bon, il m'a ordonné, sinon je perdrais mon allocation, d'aller en Wallonie pour faire un peu de promo pour la Flandre. Alors on va commencer. Il y a quelqu'un parmi vous qui a envie de venir chez nous? Pour une demi-heure? Un quart d'heure? S'il vous plaît, madame? Vous peut-être, vous voulez venir?
Alors, quels sont les stéréotypes que les Flamands acceptent au point d'en rire? Sur eux-mêmes?
Sur eux-mêmes? Je sais pas, qu'ils boivent beaucoup de bière, qu'ils aiment le cyclisme, qu'ils aiment bien manger. Mais alors, quand je raconte tout ça, je me demande, mais bon, c'est quoi ça, les différences avec les Belges francophones alors? Ce qui est clair, c'est que dans leur style ou dans les références, les Flamands sont très anglo-saxons. On peut utiliser beaucoup d'expressions, des mots, des phrases en anglais quand on joue en Flandre. Et quand je joue en Belgique francophone, le tout est en français. Mais à part ça, vraiment, il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a des différences de contenu parce qu'ils ne regardent pas les mêmes programmes de télé, ils n'ont pas les mêmes héros. Quand Johnny Hallyday est enrhumé, je ne sais rien faire avec ça à côté néerlandophone, parce que je suis désolé pour les Français, mais il est complètement inconnu en Belgique néerlandophone. Selon moi, les Flamands et les Belges francophones ont beaucoup de choses en commun, mais ils ne savent pas.
Je suis flamand, mais je peux me moquer des politiciens wallons, car en effet, la moitié de ces types, ce sont des Flamands cachés. Ce sont des espions doubles, des taupes. Ah oui, man, allez, comment Van Kouwenberg, Onkelings, Reinders, même Dardenne, au fond c'est Dardenne. Anne-Marie Lizin, elle s'appelle comment avec son nom de famille? On m'a dit ça. Van der Speten, Van der Speten, c'est vraiment du Wallon ça, Van der Speten. Et tous les autres, Van Gompel, Eerdekens, De Spiegeleer, on vous a envoyé les meilleurs, hein? Mais vous pouvez les garder, ils sont à vous. Non, pas de souci, volontiers. Non, reste after, alstublieft, after. Non, ils sont à vous. Non, non. Hey, attends, moi je vais m'arrêter ici, je dois partir. Mais soyez bienvenus chez nous, soyez bienvenus. Mais moi, je dois partir, je dois traverser la frontière linguistique dans une heure. Sinon, je crains que la Flandre ne soit fermée. Allez, à tantôt.
Ben, il y a un monsieur qui arrive ici, et je ne sais pas si c'est par hasard, mais il se promène au milieu. Peut-être que moi je l'ai fait aussi, c'est-à-dire il se trouve côté néerlandophone et côté francophone de la frontière linguistique ici, dans les bâtiments des chaînes publiques. Et c'est normal parce que lui aussi, il travaille des deux côtés. Il s'appelle Dave Sinardet.
Bonjour, bonjour. C'est vrai que c'est pas un hasard que je marche au milieu, parce que j'ai quand même un pied d'un côté et un pied de l'autre, dans la réalité aussi.
Vous êtes politologue et effectivement spécialisé dans l'analyse des forces en présence dans la politique belge.
Ben, l'objectif de ma thèse de doctorat, c'était de regarder comment les médias traitent l'information concernant l'autre communauté, mais aussi comment ils traitent l'information fédérale. Parce que on a quand même une situation assez spécifique en Belgique, c'est que il y a deux systèmes médiatiques assez divisés. Et une des choses que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand on regarde les journaux télévisés flamands, on voit que 80% des ministres fédéraux interviewés sont des Flamands. du côté francophone, on voit que 80% des ministres fédéraux interviewés sont des francophones. Tandis que, bien sûr, une décision prise par un ministre fédéral, qu'il soit flamand ou francophone, a le même impact sur tout le pays.
Par exemple, j'étais là après les élections de 2010, il y avait des émissions politiques en direct à la télé. Il y avait Bart Wever, le président des nationalistes flamands, qui rentrait ici. Il avait vraiment gagné cette année-là. Il allait immédiatement côté néerlandophone, hein, parce que là-bas, les présidents des partis politiques étaient en train de discuter le futur de la Belgique. Mais de l'autre côté, à peine à 10 mètres, les présidents des partis politiques étaient en train de discuter le futur de la Belgique, mais en français. Et moi, je voulais bien, pour une fois, je voulais bien voir que le chef des nationalistes flamands ne prenait pas côté gauche, mais bien côté droite, et qu'il rentrait là-bas dans les émissions francophones comme ça, et je ne sais pas, disait « Allez, bon, on va boire un verre maintenant ». Mais non, je veux dire, ça c'est typiquement la Belgique, c'est parce qu'il n'y a pas de votants pour lui, là. Ça, c'est très important. Hein. Les partis politiques, ou bien ils ont leurs votants dans le sud, ou bien dans le nord, et ça veut dire qu'ils vont choisir leurs médias, les présidents des partis. Ils ne vont jamais de l'autre côté. Jamais. Jamais.
Ça crée aussi quand même des problèmes démocratiques. Ça fait aussi en sorte que, par exemple, dans les médias, il y a un manque de vrais débats fédéraux sur des questions fédérales. Et ça, c'est très spécifique pour la Belgique. On est le seul pays fédéral à ne pas avoir de partis politiques fédéraux. Hein, donc, tous les partis politiques traditionnels, socialistes, chrétiens, démocrates, libéraux, dans les années 60-70, se sont scindés sur base linguistique. Et aussi, la plupart des autres partis créés entre-temps sont soit néerlandophones, soit francophones. Et ça crée quand même des dynamiques spéciales. Ça crée aussi des problèmes démocratiques. Ça fait que, par exemple, maintenant, on a un Premier ministre francophone, mais donc le parti du Premier ministre ne se présente pas aux électeurs flamands. Donc, il n'est pas possible pour les électeurs flamands, prochaines élections fédérales, de se prononcer sur le parti qui livre le Premier ministre. Ça a été le cas pendant plus de 30 ans, d'ailleurs, pour les francophones, parce qu'on a eu un Premier ministre flamand pendant des décennies. En même temps, ce qui est intéressant maintenant, c'est bien sûr qu'on a, enfin, que le plus grand parti du pays, c'est la NVA, qui est quand même un parti, selon ses statuts, toujours séparatiste, même s'ils n'osent plus vraiment le dire, parce qu'ils savent que, en fait, le séparatisme n'intéresse que 5 à 10% des Flamands. Et ils sont maintenant même allés aussi loin que de participer à un gouvernement belge, sans aucune avancée dans l'autonomie flamande.
Avec les élections législatives d'hier, élections anticipées, les indépendantistes flamands ont montré qu'il y a un réel problème.
France Inter.
Ce parti ouvertement indépendantiste.
13 juin 2010.
A recueilli près de 30% des suffrages en Flandre et les intentions des vainqueurs sont claires. Dans un premier temps, large autonomie de la province néerlandophone et dans un second temps, l'indépendance, pure et simple. Ce à quoi le président de la nouvelle alliance flamande, Bart De Wever, grand vainqueur de ces élections, répond « N'ayez pas peur ». On l'écoute au micro de Pierre Benazet.
Il ne faut certainement pas avoir peur. On veut simplement des réformes. La Flandre a voté pour la réforme, pour le changement. Et on pense qu'on peut donner à ce pays des structures qui fonctionnent pour tout le monde, pour tous les citoyens. On n'est pas contre les francophones, contre les wallons, mais pas du tout. On a toujours parlé d'une évolution. On voit un pays qui se dédouble. Ce n'est pas une conviction, c'est simplement un fait à constater. Et bon, je me rends compte que chez les francophones, il y a une certaine crainte d'abandonnement, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on a toujours suivi le processus démocratique. Si les francophones ont choisi pour le PS, c'est le PS avec lequel on doit négocier.
Effectivement, l'autre vainqueur du scrutin, c'est le Parti socialiste wallon, francophone, arrivé en deuxième position avec 26 sièges. Les socialistes vont devoir négocier maintenant avec les vainqueurs pour former un gouvernement de coalition dont le leader du PS belge, Élodie Rupeau, pourrait devenir le chef avec l'appui du parti flamand. On l'écoute.
Notre responsabilité est considérable. Nous devons également analyser les résultats en Flandre. Une grande partie de la population flamande souhaite manifestement que notre pays évolue sur le plan institutionnel. Pour stabiliser notre Belgique, ce message doit être entendu.
Ici, c'est le petit village de Cannes. Le côté là, c'est le Pays-Bas. Là, c'est la Wallonie. Là, c'est la Flandre. Et ici, tout se rencontrent sur ce point ici.
Vous présidez le Parlement flamand, Jan Peumans, oui. Vous représentez le NVA, donc oui. New Flames Alliance.
Ah, bien dit.
Quel est ce parti qui s'est constitué à droite?
Droit de centre, oui.
Avec des distinctions dans les rangs sur la question de l'indépendantisme.
Oui, c'est clair. Hein, notre premier article de nos statuts dit que nous sommes pour un Flandre indépendant. Un et deux, ça c'est très important, parce qu'on ne dit pas ça. Nous disons aussi, on a besoin d'une solidarité de la Flandre vers la Wallonie. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne rien de dire qu'il y a plus de pauvres en Wallonie. Ce n'est pas bien pour l'économie, ce n'est pas bien pour... C'est pour rien bien, hein, comme on dit ça, hein? ça c'est clair. Et notre parti dit toujours qu'on a un besoin de solidarité pour aider, où on dit, OK, nous avons des transferts, oui, de la Flandre vers la Wallonie, mais un transfert qui est clair et qui est efficace, et ça c'est important.
Je suis d'accord qu'il y a un truc à Wallonie.
Arnaud, France Culture.
Le peuple à Wallonie est plus jeune que...
Février 2009.
À Flandre. Donc ça veut dire le chômage est plus haut à Wallonie que à Flandre. Mais à Flandre, les gens qui sont en retraite, c'est plus haut que à Wallonie. Mais tout l'argent vient dans un pot. Et l'argent qu'on dépense pour la retraite est plus haut que on donne au chômage à des Wallons. Donc ça reste la même chose, quoi. Et l'économie, c'est comme yo-yo. Donc il y a 30 ans, la Wallonie était plus riche que la Flandre. Donc on partage, quoi.
Alors c'est un parti aussi où il y a des tendances différentes.
Oui, ça c'est clair.
Notamment sur la question de l'accueil des anciens, pour résumer, on va dire du Flamsblok. Et vous êtes connu pour vous être opposé à cette arrivée d'éléments d'extrême droite au sein de votre parti.
Oui, ça c'est clair.
Pourquoi est-ce que vous vous opposez à ces anciens du Flamsblok?
Oh, parce qu'ils ont des idées qui sont toutes contre les idées de mon parti et de moi-même. Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas des étrangers, il faut tout retourner vers leur pays et tout ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est clair.
Vous êtes un peu minoritaire.
Non, ce n'est pas vrai. Hein. Notre parti dit les gens ils sont bienvenus ici, oui, mais il faut comprendre notre langue et deux, il faut respecter. Ah, et aussi par exemple la vision de il y a des gens qui n'ont pas le respect pour la femme par exemple. Ça c'est clair dans notre société, ce n'est pas possible. Et les gens qui viennent ici, nous disons, il faut avoir le respect, voilà.
Moi, j'ai le sentiment que les logiques identitaires reprennent du terrain dans le débat politique, et en particulier dans votre parti, le NVA.
Oh, mais c'est important hein, qu'on a une identité, hein, non?
Oui.
J'ai une identité, pas belge, hein, moi, hein, mais vous savez ça, je suis un républicain, je ne suis pas pour la Belgique, hein, je dis ça, chacun, le roi sait ça, chacun sait ça, aussi dans le Parlement, c'est mon droit. Je suis flamand, je suis européen, je suis de Rimst, quelqu'un a beaucoup d'identité, hein. C'est un des fondements d'être humain, ça c'est clair. Il y a des gens qui se sentent belges, il y a des gens qui se sentent wallons, des flamands, des bruxellois, des je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas l'identité belge. Moi je suis né dans une famille où mon père qui était un nationaliste flamand, et moi je suis resté aussi nationaliste flamand.
Et dans votre parti, il y a des anciens du Flamsblok ou des transfuges du Flamsblok.
Mais qui sont, oui, hein, il y a des types, oui. Mais ils ont compris que leurs idées ne sont pas les idées de notre parti. Ça, c'est clair. Il y a des types, oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas éviter, hein, parce qu'à un moment, j'ai dit, maintenant, c'est fini, hein, s'il vous plaît. Hein. Et on a dit, oui, OK, c'est fini.
La prise de distance de la NVA, Nouvelle Alliance Flamande, principal parti néerlandophone, par rapport à l'extrême droite est donc revendiquée, ce qui n'empêchait pas en avril 2016 Jan Jambon, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de déclarer qu'une part significative de musulmans ont dansé après les attentats du 22 mars. Il y a des thèmes qui sont porteurs et dont on aurait tort de se priver, d'autant que le Flams Belang, depuis 2015, est en train de siphonner les électeurs de la NVA.
Le Flams Belang revendique le statut de seul vrai parti séparatiste flamand. Reste-t-il une possibilité de voir dans le pays se constituer un socle qui transcenderait les différences linguistiques ? Retour dans les villages de Cannes, Ebenemal et des Fourons, à la recherche d'une hypothétique identité belge. Vous êtes wallon?
Non, je suis bilingue. Moi, je suis. Ouais, oui, après, c'est pas long. Ouais. C'est la frontière du. Oui, c'est Lébourg, province de Lébourg et province de Liège, ici.
Exactement ici, là où on se trouve. Hein. Vous voyez le panneau?
Oui, voilà, le panneau est là. Ici.
Mais là, vous êtes en Flandre, du coup, là?
Oui, ici, on est en Flandre. Ici, on est en Flandre.
Et vous y êtes souvent?
À 50 mètres près, vous êtes en Wallonie.
Mais qu'est-ce que vous faites en Flandre?
Je promène le chien.
Comment vous vous appelez, monsieur?
C'est Eric.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette frontière linguistique?
Pas grand-chose, parce que moi je suis parfait bilingue, j'ai de la famille là-bas, j'ai de la famille là-bas. Donc pour moi, il n'y a pas de frontière.
Vous, vous dites que vous habitez à Cannes ou à
Ebenemal? Non, c'est en Wallonie, c'est ça.
Ebenemal.
Ebenemal, ouais.
Vous habitez à Ebenemal. Et à partir de ce panneau, c'est Cannes.
Ouais, c'est un peu plus haut, mais enfin, bon, ils ont mis le panneau, là.
Mais la maison, là, qui a sa fenêtre au milieu de la frontière, ils font comment?
Ah, ils font comment? Mais you know, ici, c'est flamand, quoi, il n'y a pas de souci. Ils reçoivent le courrier en irlandais, il n'y a pas de souci.
Parce que la porte est côté flamand?
Ouais, et la fenêtre côté wallon, ouais.
C'est pas évident, hein, quand même.
Féralide, Charles. Ouais, hey, bonne journée, ciao, hein. Très bien.
On est maintenant à Cannes et on va traverser le pont.
Simone, habitante de Cannes.
Sur le canal Albert qui va de Liège jusqu'à Anvers. Donc on va traverser le pont et on va arriver en Wallonie. La colline qu'on voit, c'est une colline artificielle, c'est les Pays-Bas. Et juste avant, c'est la Flandre. Et là-bas, on voit une colline, ça c'est la Wallonie. Déjà, c'est compliqué. À l'autre côté du canal, il y a encore un bout de Flandre qui appartient à Cannes, mais juste 100 mètres plus tard, c'est la Wallonie. Et on voit tout d'abord, on voit un tableau qui dit fin de Flandre, fin de village Cannes, et puis on voit un changement de style de maison, et on voit un changement, les routes sont différentes, les tableaux sont différents, les noms sont en français, le numéro de téléphone, c'est un autre numéro de téléphone. C'est un autre réseau pompier, un autre réseau policier. Le prix de maison est différent. Tout est différent. Donc, avant que le canal ait été creusé, c'était des champs. Il n'y avait pas de pont, il y avait des champs avec des vaches. Il n'y avait pas une frontière physique. Il y a une petite rivière qui s'appelle le Ger. Il va en dessous le canal Albert. Il a une origine en Wallonie. Il va jusqu'à Maastricht et puis après il entre dans la Meuse. Et avant qu'il plonge en dessous le canal Albert, il y a un filtre, il y a un gris qui arrête tous les déchets. Et on voit plein de déchets, des bouteilles. On a toujours dit, bon, c'est les Wallons qui jettent leurs poubelles. Parce que c'est trop cher pour payer les impôts et donc ils jettent dans la nature. Mais c'est un cliché évidemment, on fait pareil en Flandre et je ne peux pas dire objectivement si le système de recyclage des déchets ou les impôts est mieux réglé en Wallonie, en Flandre.
C'est une histoire de frontière. Dans ton enfance, ça a pu prendre d'autres proportions. Qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple, comme ça, de choses compliquées?
Je crois que le langage, c'est la plus grande difficulté. Quand on ne se comprend pas, on est moins proche que quand on se comprend. Donc, je dirais presque, moi j'étais beaucoup plus proche avec les jeunes des Pays-Bas que les jeunes qui habitaient à Ebenemal, que je connaissais même pas. Voilà, c'est un arrêt de bus flamand sur la frontière linguistique. Je prenais ce bus chaque jour, 5 jours par semaine, aller-retour. C'était un trajet de 30 minutes et à l'école à Fouran, j'avais ma sœur, mon frère qui sont plus âgés que moi, ils allaient tous à cette école-là.
Donc dans une école considérée par pas mal de Wallons comme un instrument de l'invasion du territoire de Fouron par les Flamands.
Quand moi je suis arrivée à cette école, il y avait peut-être 6 élèves de Wallonie. Parce que juste avant moi, il y avait ce combat de Fouron. Tu voyais partout des graffitis Fouron Wallon. Et même à l'époque, ma sœur et mon frère, il y avait plus d'élèves Wallons. Et qui écrivaient aussi sur les bancs Fouron Wallon. Et une fois que le bourgmestre Hubcourse a gagné, on peut dire que Fouron devenait 100% flamand, il y avait beaucoup d'élèves wallons qui sont plus venus à l'école à Fouron.
Il paraît que les derniers temps, il y a des petits incidents aux arrêts d'autobus. Les enfants se lancent divers objets. Vous savez, ce sont des enfants. Ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais il le faut quand même.
Bonjour, Hugues Brooks. Vous êtes bourgmestre des Fourons.
Oui.
Depuis l'an 2000.
2001, pardon.
Oui. Ce n'était pas gagné d'avance, puisque malgré le fait que les Fourons sont devenus flamands depuis 1963, de cette date à l'année 2001, c'était resté une zone dominée électoralement par les Wallons. Mmh. Alors, racontez-nous comment vous avez réussi à arracher cette victoire.
Mais je veux vous dire, d'abord, pas par les Wallons, mais par les francophones. C'est autre chose, naturellement. Un Wallon, c'est quelqu'un qui vient de Wallonie. Un francophone, c'est quelqu'un qui parle français. Donc, la population fouronnaise se compose, naturellement, de beaucoup de Belges, mais aussi de Néerlandais, d'Allemands, etc., etc. En l'an 2000, les Européens ont pu voter. Naturellement, avec le soutien des Néerlandais, on a pu gagner les élections, c'est vrai. Mais après, on a continué à grandir. Là, je crois sincèrement, c'est dû au travail qu'on fait, naturellement. Tout le monde sait que moi, je suis flamand à 100%, mais je ne gêne pas pour parler le français. Donc, quand il y a un concitoyen francophone qui me parle, je parle toujours français.
Jean-Louis Honneux, vous définissez comme le meilleur ennemi du maire Hugues Brooks.
Je suis peut-être son meilleur ennemi parce que je suis de près ce qu'il fait, tout ce qu'il commet comme acte contre les francophones ici à Fouron. Et de ce fait, il sait que dès qu'il fait quelque chose, je serai là pour réclamer, pour le dénoncer, etc. Il y a des années déjà, un jour, osé dire que on faisait de l'élimination linguistique à Fouron. Et ce qu'ils font pour le moment, c'est vraiment ça. En cherchant votre chemin, vous avez peut-être trouvé à beaucoup d'endroits des grands panneaux pour annoncer une collecte de sang. Même pour ça, ils s'amusent maintenant à flamandiser tout. Ça fait partie de leur politique. Il faut absolument que tout ce qui est francophone disparaisse au point de vue inscription le long des routes. Ils ont commencé par les noms des chemins, les noms des villages, etc. Et ils font tout le nécessaire pour que la personne qui vient se promener dans les Fourons ne se rende plus compte qu'il y avait une majorité francophone ici il y a quelques années, majorité qui est devenue minoritaire à la suite de l'importation de beaucoup de Hollandais, etc. Ils sont entièrement maîtres de leur système de flamandisation. Le ministre de tutelle est un ministre NVA. Il faut savoir que Brooks est également NVA, etc. Donc, ils sont maîtres sur toute la ligne. Ils peuvent commettre n'importe quoi comme erreur administrative, comme abus de pouvoir. Ils seront toujours couverts.
Bonjour, madame.
Oui, bonjour.
Vous habitez dans les Fourons ?
Depuis une semaine, oui. Je suis née la maison ici derrière et j'habite juste en face maintenant.
Vous êtes né dans les fourrons.
Oui.
Et ben, comment c'était avant la frontière linguistique?
Oh, j'étais jeune, hein. Ben, je suis mariée en 63, c'était...
Justement l'année?
Justement l'année qu'on a été annexé au Lembourg.
Annexé, oui. Vous avez dit?
Ben oui. Ben, c'est-à-dire qu'avant on était Liège, la province de Liège, puis on est devenu de Lembourgeois, hein.
C'est une annexion démocratique.
Oh, oui.
Et donc, vous êtes partie vivre ailleurs que dans les fourrons?
Ben, c'est parce que c'est-à-dire que j'étais mariée, j'étais habitée à Auvel. Et je suis revenue ici, dans le petit appartement de mon frère. Voilà, c'est tout.
Et entre-temps, le village est devenu très,
très flamand. Flamand.
Et alors, comment ça se passe, votre retour?
Oh ben, c'est la première fois que je sors. Parce que mes parents sont enterrés. J'ai mon anniversaire aujourd'hui. Et je me dis, tu vas aller jusque sur la tombe des parents. Voilà. Tout ce que je peux vous dire.
À quoi est-ce que vous vous attendez pour la cohabitation avec vos voisins flamands?
C'est-à-dire, bon, ça. Ici, c'est pas tellement des flamands dans la rue. J'ai ma sœur ici. J'ai une amie à côté. Et puis le reste, je n'ai pas encore vu. Un peu plus vert, ce sont des francophones aussi. Donc,
Vous êtes bilingue?
Oui.
Comment est-ce que vous avez appris le néerlandais?
Ben parce qu'avant, à Fourreau, tout le monde parlait les deux langues. Hein. Nous, les jeunes, on a tous appris les deux langues. Hein. On parlait le patois, on allait à l'école flamande au début, puis après on allait chez les sœurs, c'était en français. C'était tout le monde, ça. Ici, tous les fourronnais sont bilingues, de mon âge. Hein.
Vous savez déjà pour qui vous allez voter aux prochaines élections?
Oh, je ne sais même pas qui sera sur les listes. Ouais. Bah, pour les francophones, forcément. Forcément, puisque...
C'est logique.
Oui, c'est tout à fait normal, oui.
Alors, on vous souhaite une bonne réinstallation et un bon anniversaire.
Merci beaucoup. Oui, 74 ans aujourd'hui. Et voilà. Allez, une bonne journée, hein.
Il y a des personnes qui disent que nous avons été annexés par le Lembourg. Il y a des personnes qui oublient qu'une toute grande partie du Lembourg est passée à la province de Liège, Ebenemal, hein, tout près de Cannes par exemple, Ebenemal, Glon, Bassange, Boire, etc. C'était des communes limbourgeoises. Ils sont passés à la province de Liège sans facilité pour les néerlandophones qui y habitaient.
Plus près de nous, en Belgique, le Premier ministre a présenté au roi Baudouin la démission de son gouvernement.
France Inter.
Une fois encore, chez nos voisins du Nord.
15 octobre 1986.
Une crise grave a pour origine les divergences entre francophones et néerlandophones. Au départ de ce nouveau conflit linguistique, les Fourrons, une petite commune à majorité francophone, mais rattachée à la région flamande, et dont le bourgmestre, autrement dit le maire, a été démis de ses fonctions parce qu'il ne parle pas flamand. Écoutez le maire de cette commune des Fourrons, José Appart, interrogé par Quentin Dickinson.
Le problème fourronnais, c'est le refus de respecter la démocratie. Il y a déjà un gouvernement qui a chuté sur les Fourrons avant que je n'existe politiquement dans les Fourrons, c'est-à-dire en 72. Alors, c'est pas la faute de José Appart, tout ça. Je ne me sens pas du tout responsable.
Ici, on dit José Appart ne veut pas parler flamand, ne parle pas flamand. Non. Lorsque j'étais bourgmestre de la commune de Fourrons, j'ai posé tous les actes légaux en langue néerlandaise, puisque la loi m'y obligeait. J'ai toujours refusé cette forme d'allégeance au pouvoir d'occupant des Flamands qui voulait que je passe un examen. Or, en démocratie, le seul examen qu'on peut demander à un élu, c'est l'élection, le suffrage universel. Donc, ce qu'il voulait, c'était pas tellement que je parle le néerlandais, ce qu'il voulait, c'est que je mette un genou en terre et que je dise je me soumets au diktat de l'occupant. Nos ancêtres ici, ils n'ont jamais accepté des Allemands sans 14-18 ni en 40-45. Moi, je n'allais pas faire ce que mes ancêtres n'ont pas fait en 83-88.
Quand vous dites il voulait me mettre le genou à terre, c'est il, c'est donc
le pouvoir flamand, la Flandre dans son homogénéité, parce que c'est pas simplement quelques tordus flamands d'ici. Leur objectif, c'était de flamandiser d'une façon irréversible. Ici, vous pouvez avoir des avantages légaux si vous vous exprimez dans la langue de l'occupant flamand. Si ces avantages sont légaux, mais que vous vous exprimez dans une langue qui n'est pas celle de la majorité occupante, vous n'avez pas les mêmes droits. Si vous êtes wallon en Fouron, le seul droit que vous avez comme les Flamands, c'est de payer des impôts. Mais les droits de l'homme, les droits à l'instruction, les droits à l'emploi, les droits à la construction de bâtiments, à l'urbanisme, etc., sont différents et on vous jugera blanc ou noir suivant que vous serez de langue néerlandaise ou si vous êtes de langue française.
On a rencontré plus à l'est de la Belgique deux personnages importants dans l'histoire de la politique belge, José Appart et Huub Broers. Alors, c'est des luttes qui datent d'il y a un certain temps. Maintenant, est-ce que c'est has-been, ces histoires ?
Oui, je crois que les vrais conflits linguistiques concernant des communes comme les Fourons, en partie même aussi les communes périphériques de Bruxelles.
Dave Sinardet. Politologue.
C'est largement des débats et des conflits qui n'intéressent plus la plus grande partie de l'opinion publique en Belgique, ni en Flandre, ni en Belgique francophone.
Alors, 20 ans plus tard, quelle est la définition, à votre avis, de ce qui rassemble les Belges ?
Quand on regarde les études d'opinion publique, on constate quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'en fait, le sentiment identitaire belge est toujours très très fort. Pas seulement en Belgique francophone, mais aussi en Flandre. Donc, quand on demande aux Flamands qu'est-ce que vous sentez en premier lieu, belge ou flamand, européen ou encore autre chose, plus de la moitié des Flamands dit « je me sens tout d'abord belge ». Il n'y a qu'un quart qui dit « je me sens d'abord flamand ». Il y a aussi un quart des Flamands qui dit « je me sens uniquement belge », donc pas du tout flamand. Et donc, ça c'est quand même un peu paradoxal parce que dans le débat politique et aussi dans les médias, pendant longtemps, le sentiment belge, c'était un peu tabou, c'était un peu vu comme vieux jeu, c'était pas vraiment politiquement correct. Et on voit que dans l'opinion publique, voilà, beaucoup de gens restent quand même encore attachés à ce sentiment belge.
Alors, qu'est-ce qui fait cette unité belge ? C'est le roi ? C'est les frites ? C'est quoi ?
Il y a bien sûr certains symboles dont on parle toujours en connexion avec l'identité belge, le chocolat, les frites, bon, c'est un peu bien sûr les clichés. En même temps, voilà, il y a aussi d'autres réalités derrière. Il y a aussi le fait que, voilà, probablement beaucoup de francophones vont à la côte, beaucoup de flamands vont dans les Ardennes. Le football, c'est bien sûr assez important aussi. Quand l'équipe des Diables Rouges joue, il y a vraiment un sentiment d'enthousiasme autour des couleurs belge, en fait, c'est pas nécessairement vraiment fondamentalement différent que dans d'autres pays.
Ça, c'est quelque chose qu'on a en tout cas en commun, c'est on sait bien que c'est un tout petit pays et on s'en fout que c'est un tout petit pays.
Bert Kreuzmans.
Il y a beaucoup de choses qui sont pas tellement importantes dans notre pays. Notre drapeau, quand on regarde, surtout quand on regarde les politiciens français, avec les valeurs de notre République et la France, et blablabla, pour nous, c'est un peu rigolo. Ben, c'est très rigolo parce que chez nous, en Flandre, on sait bien, bon, alors, nous sommes des Belges, oui, et quoi ? Nous sommes les gens presque les plus riches de l'Europe. Et ça, c'est plutôt important en Belgique. Le fric. Non, vraiment, il y a... Les Belges ont besoin de pas beaucoup de symboles. On se moque de nous-mêmes, on se moque de notre armée, de n'importe quoi en Belgique. De notre fête nationale, c'est quoi ça, la fête nationale ? On s'en fiche complètement.
Belgique, des frontières dans la tête. Avec le commissaire Duchesne, Marcel Neven, Claude Putz, Simone Thijs, Bert Kreuzmans, Dave Sinardet, Huub Broers, José Appart, Xavier Honneux et Jan Peumans. Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Alain Joubert. Archivina, Isabelle Fort-Rendu. Attaché d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire signé Antoine Saxe et Assia Khalid pour Sur les Docs.
much snack.
Francophone, néerlandophone, flamand, wallon, hollandais ou belge, LSD, la série documentaire s'est bouclée pour cette semaine. C'est une frontière gardée par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier pour s'y retrouver, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la route ou nous réécouter à Bruxelles. Et bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. La semaine prochaine, il sera temps enfin de s'allonger sur le divan. Et dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.
France Culture présente Corps Rebelle au musée des Confluences. L'exposition Corps Rebelle vous invite à découvrir la danse contemporaine. Au cœur de l'image et du mouvement, muni d'un casque, explorez la diversité de la création et ses multiples inspirations. Une occasion de voir ou revoir des extraits d'œuvres chorégraphiques qui ont marqué l'histoire de la danse contemporaine. Corps Rebelle, jusqu'au 5 mars, au musée des Confluences à Lyon. Un partenariat France Culture. Ce vendredi à 15h30, retrouvez Ping Pong en public au Café Danse, 3 rue Grolet à Lyon, à l'occasion de la Biennale de la Danse. Mathilde Serrel et Martin Kenéen reçoivent les chorégraphes Bouchra Wisgen et Olivier Dubois. Venez nombreux, entrée libre.
Ping Pong.
Plus d'infos sur franceculture.fr.
Et Mathilde Serrel, qui n'aime jamais tant qu'on parle d'elle, est là. À mes côtés, c'est-à-dire on vient de vous entendre.
Pour confirmer
que demain, donc, c'est ça ?
Oui, à partir de 15h30 demain, vous pouvez, si vous êtes auditeur lyonnais ou de la région, venez nous voir, ce sera un ping-pong en direct passionnant avec la chorégraphe Bouchra Wisgen et puis Olivier Dubois aussi, chorégraphe.
Mais ça, c'est demain. Parlez-nous plutôt d'aujourd'hui, du programme de ping-pong à partir de 19h, Mathilde.
Alors ce soir, un ping-pong voyageur avec Alain Mabankou qui publie, je le cite, une autobiographie capricieuse. Alors certes, c'est surtout une cartographie littéraire passionnante, Le Monde est mon langage, et puis le romancier québécois Daniel Grenier pour un roman historique et fantastique qui traverse les siècles et le territoire américain, l'année la plus longue.
Voilà, ce sera donc à partir de 19h et toujours en compagnie de Martin Kenéen. À 18h20, je vous retrouverai pour du grain à moudre pour poser la question suivante. La science économique doit-elle faire sa révolution copernicienne? Question posée à l'occasion de la publication d'un ouvrage qui fait beaucoup de bruit dans la communauté des chercheurs en économie, Le négationnisme économique. Il est signé Pierre Cahuc et André Zilberberg. Les deux auteurs s'en prennent notamment au collectif des économistes atterrés qu'ils accusent donc de négationnisme. Eh bien, nous avons justement invité Pierre Cahuc, un des auteurs et un des membres des économistes atterrés, Benjamin Coria. Ce sera donc un débat entre deux à partir de 18h20.